Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahi la yumiddinu ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem. Rabbi shahli sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. Nous continuons bi'idhnillah le tafsir de la sourate Nuh et on avait vu la semaine dernière comment est-ce que Nuh alayhi salam invitait son peuple vers Allah azza wa jalla avec patience et persévérance et avec hikma. Parfois il s'adressait aux gens en public à un discours général. Et quand il fallait conseiller une personne de façon, on va dire, plus personnelle, Nuh alayhi salam isolait la personne et lui donnait les bons conseils. Et on avait vu que ça fait partie de la kamal, de la hikma, de la sagesse du da'iya, que d'inviter les gens vers Allah de différentes façons. Des fois en public, des fois en privé, et surtout, surtout faire très attention à la sensibilité des personnes qu'on invite vers le haq ou plutôt quand il s'agit d'un péché, quand il s'agit d'un manquement chez une personne, on doit prendre des précautions et ne jamais l'interpeller en public. Ne jamais l'interpeller en public parce qu'il ne faut surtout pas humilier la personne ni révéler des défauts. Et on avait, je pense qu'on s'était arrêté à peu près à ces explications. Si je retrouve, oui, le dernier verset qu'on avait commenté, c'est Wa yumdid kum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Nuh alayhi salam avait rappelé à son peuple tout ce qu'Allah azza wa jalla allait leur accorder s'ils revenaient vers le droit chemin, s'ils arrêtaient d'adorer les idoles et ils arrêtaient les péchés. Allah Rabbul Izza leur accorde son pardon, bien sûr, mais également la baraka bi amwal wa banin, la baraka de leurs biens et la baraka dans leurs héritiers, dans leur famille. Et Allah leur aurait accordé jannat, des jardins, et avec ces jardins, qu'est-ce qui accompagnait ces jardins? Anhar, des fleuves qui coulent. Et le verset juste avant, on parle également de la baraka qui vient du ciel, la pluie. Et tout ça, c'est, on va dire, une description globale de la baraka qui était nécessaire pour ces personnes à leur époque. Maintenant, par analogie, en fonction des situations des gens, en fonction des personnes, je dois être persuadé que si je reste ferme dans les bonnes actions, je m'éloigne des péchés, et que, mashallah, je demande souvent tawbah, le istighfar. Je pense que tout le monde a reçu ce papier aujourd'hui sur l'istighfar. Enfin, je pensais l'avoir amené. Hein, ça a été distribué, un papier sur l'istighfar. Ben, c'est vraiment un document à garder. Je ne l'ai pas lu, mais je pense que ça a été bien fait. Et parmi les vertus du istighfar, le fait qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la baraka, la bénédiction, dans tout ce que nous accomplissons, et par le istighfar, Allah éloigne les difficultés. Des fois, on est dans des périodes difficiles avec des épreuves, qui s'enchaînent hein, les uns après les autres. Parfois, il suffit d'un retour vers Allah avec sincérité. Kathratul istighfar, ça permet de voir certaines difficultés s'éloigner bi'idhnillah. Ensuite, le verset qu'on a lu, Ma lakum la tarjuna lillahi wa qara. Donc là, ce qui est un peu complexe, c'est que il aurait fallu étudier toutes les asalib ou da'wa, les façons de prêcher de Nuh alayhi salam de façon continue. Mais c'est pas grave. As-Sa'di rahimahullah, dans son recueil de tafsir, a énuméré ces différentes façons. Donc ce que je propose, c'est que il faut les voir ensemble et ensuite on les commente comme Ibn Kathir l'a fait. As-Sa'di, rahimahullah, dit que Nuh, alayhi salam, invite son peuple vers Allah, Rabbul Izzah, tout d'abord, en disant que revenez vers Allah parce que innahu kana ghaffara. Et je pense qu'on avait commenté ce verset. Je dis qu'il est important de donner l'espoir aux gens et de ne pas les effrayer. De ne pas dire qu'à cause de ce péché, tu auras tel châtiment et ainsi de suite. Certes, la notion de péché, de châtiment, ça existe dans le Coran, entre autres. Mais dans la hikmah du da'iya, de celui qui invite via le haq, il doit considérer à juste mesure le niveau, sans juger, hein, mais le niveau de pratique ou plutôt d'éloignement de la personne. Quand il s'agit de quelqu'un de très éloigné de la religion, on ne va pas démarrer le discours avec des menaces d'enfer, de châtiment. Au contraire, rappelez que notre Seigneur est clément, miséricordieux, comme on a vu la dernière fois. Donc ça c'est invité vers Allah en rappelant les noms d'Allah et la kamal, la perfection de notre Seigneur et ses qualités. Donc ça, c'est un des usloub de da'wa de Nuh alayhi salam. Deuxième usloub, dans Yursili Sama'a alaykum midrara, rappeler aux personnes que dans l'obéissance, il y a le succès dans ce monde et dans l'au-delà. Et le succès dans ce monde, c'est quoi? Parmi les points qui font partie des succès de ce monde, c'est la bénédiction dans nos biens, dans nos familles, dans la santé. Donc rappelez que quand on est dans le droit chemin, ben on est sous la protection d'Allah Azza wa Jal. Ça fait deux points. Et ce sont des asalib qui encouragent la personne. Plutôt que de faire fuir ou d'effrayer ou autre chose, rappelez, reste dans le droit chemin et tu verras comment est-ce qu'Allah va t'élever, va te protéger. Et tout ce que tu essaies de faire, ben tu pourras faire, tu retrouveras la nusra et l'aide d'Allah Azza wa Jal. Troisième uslo parmi les asalib ou da'wa, وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Et en fait, وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا, ainsi que 4 ou 5 versets qui viennent après. Les versets qu'on a lus en introduction, j'ai pas lu la traduction par contre, وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا, alors qu'il vous a créé par phases successives. On verra qu'est-ce que ça veut dire, les phases successives. Et ensuite, les versets, n'avez-vous pas vu comment Allah a créé 7 cieux superposés, c'est-à-dire appelés vers Allah en rappelant à l'être humain la grandeur d'Allah. La grandeur d'Allah en permettant à la personne qui parfois est perdue dans ses passions, perdue dans une spirale de péché, noyée dans le waswasa de Shaitan. Des fois, on est comme ça. On est noyé dans les péchés, dans les insufflations du diable, dans les mauvaises pensées, dans beaucoup de choses négatives. Et on oublie même l'essence de la vie. Qui sommes-nous? Quel est notre rôle sur terre? Et on oublie de voir, ou on ne sait plus voir, ni regarder, ni reconnaître la grandeur d'Allah à travers sa création. Et c'est ce que Nuh alayhi salam rappelle à son peuple, votre création à vous. N'oubliez pas comment Allah vous a créé. Vous êtes là comment? Les différentes phases de la création de l'être humain. Et regardez, Sab'a samawat intibaqa, les 7 cieux, et ainsi de suite, la terre, le soleil, la lune, et la plupart des créatures, et on va dire de la création qui est visible à l'œil nu, et qui ne nécessite pas beaucoup de recherche. Hein, ce sont des choses que nous voyons au quotidien, mais ça fait partie également de la da'wa, c'est rappeler aux gens la création d'Allah Azza wa Jal. Et en tawhid, en aqidah, on va dire qu'il y a différentes façons d'énumérer le tawhid, et un des découpages qui est très correct, c'est un découpage en 3 parties, le tawhid, fil rububiyya, fil uluhiyya, et fil asma'i wa sifat. Et le tawhid fil rububiyya, justement, c'est l'invitation vers Allah à travers sa création. Et ça, cet usloub, il se trouve, subhanallah, en grand nombre de le Coran, où Allah rappelle que c'est lui le créateur, c'est lui qui a fait telle chose, telle chose. Et le but, c'est que l'être humain qui réalise, parce que des fois, on oublie de regarder, on ne sait même plus qu'il y a quelque chose à contempler, d'accord? Je vous donne un exemple, une parenthèse, et j'aimerais ne pas perdre le fil, vous me rappelez au cas où si on perd le fil. En ce moment, la salat de Fajr, elle est très tôt, hein, une des périodes les plus tôt de l'année. Et si un matin, soit vous vous ennuyez ou alors vous avez une course à faire, ben passez près du barrage, ça s'appelle le barrage, ça s'appelle comment ça, en face de la gare, on appelle ça le front de mer, je sais pas, en face de la gare de Saint-Denis, où il y a la mer. Comment appelle la mer là? Sous fond de mer, c'est ce que j'ai dit. Pour nous, fond de mer, c'est Saint-Pierre. Non, à nous aussi, nous pas moins, nous pas plus. Passer près du front de mer, après la salade de Fajr, c'est-à-dire ça vous ramène à 5h20, 5h25. Wallahi l'azim, c'est magnifique. C'est mon plaisir en ce moment. C'est qu'en été qu'on peut voir ça. C'est en été. Enfin, non, c'est toute l'année, mais ça correspond à nos horaires de madrasa et tout. Mais c'est magnifique de voir, c'est pas un lever du soleil, un début de lever du soleil avec le ciel qui commence à être un peu orange et on voit cette lumière sur la mer. Subhanallah, on se dit que, ben, des fois, mais où est-ce qu'on était tout ce temps? Qu'est-ce qui fait qu'on oublie de regarder, de contempler la beauté de la création d'Allah? Et ça, ça augmente le iman. Et ça, ça fait partie des adhkar de penser à Allah en méditant sur sa création. Donc, Nuh alayhi salam invite son peuple vers Allah en les rappelant, Allah vous a créé. Allah a créé les cieux que vous voyez. Allah a créé le soleil que vous voyez. Allah a créé la lune que vous voyez. Et la terre, Allah fait que cette terre, elle est comme il faut, elle est stable et elle vous permet de circuler. Allah vous a accordé la possibilité de circuler sur les mers, de voguer pour aller pêcher, pour aller faire vos commerces, ainsi de suite. Donc, le rappel de là, des ni'amas, des bienfaits qui nous entourent et de la création d'Allah Azza wa Jal. Ça fait, me semble, 4 asalib de da'wah et 5e usloub de da'wah, c'est le verset qu'on est en train de voir et du coup après on peut reprendre le fil, même si on aurait dû le mettre en premier dans l'ordre chronologique. Lorsque Nuh alayhi salam dit à son peuple « Ma lakum la tarjouna lillahi wa qara » Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit. Voilà la traduction, c'est pas la première fois qu'on le dit. Les traductions ne reflètent pas vraiment le sens, d'accord? Ça veut dire quoi, vénérer? Bon, on va voir le tafsir, c'est plus clair. Ibn Kathir dit, et ça, il reprend la vie d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, la tu'azzimuna Allah haqqa 'azamatihi. Et ça, c'est plus parlant. Vous ne considérez pas Allah Rabbul Izzah comme il le mérite. Vous ne faites pas le ta'zim. Vous n'appréciez pas la grandeur d'Allah Azza wa Jal alors qu'il est grand et magnifique. Pourquoi donc? Qu'est-ce qui fait que vous ne reconnaissez pas la grandeur de votre Seigneur? Voilà, je pense qu'on a trouvé. Qu'est-ce qui fait que vous ne reconnaissez pas la grandeur, la beauté, la puissance de votre Seigneur? C'est ce qu'on appelle, si on emploie un masdar, un nom d'action, ta'zimullah. Reconnaître la grandeur, la beauté, la suprématie, le fait qu'Allah est majestueux, c'est-à-dire tous les asma wa sifat qui montrent la grandeur d'Allah, azza wa jal. Et on avait eu l'occasion d'étudier al-azim. C'est le deuxième nom d'Allah, il me semble qu'on avait abordé le mardi soir. Autre tafsir, non, ça c'est Ibn Kathir maintenant. La takhafuna min ba'sihi wa niqmatihi. Qu'est-ce qui fait que vous n'éprouvez aucune crainte de votre Seigneur ni de son châtiment? Est-ce que c'est plus clair? Ça s'appelle ad-da'wa. Alors, qui c'est qui va trouver ça? Par déduction. Au départ, quand il rappelle aux gens la grandeur d'Allah, sa bonté, il faut revenir vers lui, il va vous pardonner, vous donner. C'est la da'wa bit-targhib. Targhib, c'est l'encouragement. Et l'autre catégorie de da'wa, c'est ad-da'wa bit. C'était pour toi, ça, Ali. C'était pour toi, ça. Hein? Le contraire de targhib, c'est. Barakallah, fik, al-Sheikh Jal, islakin yasma'n jayidan. Ad-da'wa bit-tarhib. At-tarhib, c'est mise en garde. Il dit, Allah vous accorde, Allah est généreux, Allah est clément, Allah est pardonneur, revenez vers lui. Mais il dit également, attention, par contre, si vous dépassez les limites, vous ne revenez pas vers Allah Azza wa Jal, Allah peut châtier. Et Allah a décidé, a décrété, a fixé les règles. Et il a dit que si la personne sort des limites, il y a telle mise en garde, il y a tel châtiment. Et donc, il interpelle son peuple. Pourquoi vous ne considérez pas Allah, votre Seigneur, à sa juste valeur, en guillemets juste valeur, parce que la valeur d'Allah, subhanallah, ça dépasse nos mots, nos termes, notre compréhension. Qu'est-ce qui fait que vous n'éprouvez aucune crainte de votre Seigneur? Et les ulama, rahimahumullah, là on passe à notre kitab, hein, il vient kidnapper de nos moustami'ines. Haram alayk ya hajj. Ma fahim. Et donc, il dit que comment est-ce que... Non, enfin je reprends. Plutôt que d'élever une question, on donne directement la solution. J'allais demander comment est-ce que la grandeur d'Allah peut pénétrer le cœur d'un être humain. Les ulama disent que plus le croyant, le mu'min, va étudier les noms et les qualités d'Allah, Azza wa Jal, il va comprendre ou il va faire un pas de plus vers la compréhension, vers la prise de conscience de la grandeur d'Allah. Plus on étudie les noms d'Allah, plus on étudie Al-Azim par exemple, ben, la grandeur d'Allah va entrer dans nos cœurs. Mais si nos cœurs sont dénués de connaissances religieuses, de sciences concernant la grandeur d'Allah, comment voulez-vous que, face au péché, on ressente la grandeur d'Allah? Le raisonnement est clair? Comment voulez-vous qu'on demande à une personne, face à une proposition de zina, d'adultère, face à une proposition d'argent facile de ton banquier qui te permet de construire ce que tu veux ou d'acheter ce que tu veux, face à tel péché qui te tend la main, pense à ton Seigneur et crains, sois et éprouve de la honte à désobéir à Allah, ressens sa grandeur et crains son châtiment. Mais si ton cœur est vide, vide dans le sens où tu ne connais rien de ton Seigneur. Comment voulez-vous qu'on puisse éprouver, qu'on puisse avoir cette force spirituelle qui va lutter contre les shahawat? Et ce n'est pas là quelque chose de facile, car al-mailu ila al-ma'siya, le fait de pencher vers les péchés, ça fait partie de la fitra. Le verset qui le prouve, inna nafsala la ammaratum bissu, Allah crée le nafs. De cette façon, le nafs vous appelle vers le mal. Maintenant, quand le nafs, il te tire vers le mal, et que Shaitan, alladhi yuwaswisu fi suduri nas, il te pousse également, il faut une force énorme pour contrer tout ça. Mais c'est la force de foi, de iman. Maintenant, soit c'est un iman rituel, héritage culturel. Je pratique parce que quoi? Parce que. C'était déjà une réponse, parce que. Parce que c'est comme ça. Je suis musulman et tout le monde le fait, lui il le fait, il le fait, il le fait. C'est notre culture, c'est notre identité et tout, c'est nos parents, nos grands-parents. Bas. Où est la ilaha illallah, l'amour d'Allah, la crainte d'Allah? C'est-à-dire que si notre pratique, elle est juste, on va dire, au niveau le plus bas, c'est-à-dire juste on pratique parce que on a toujours fait, ben assurément qu'il y aura une situation extraordinaire, une situation qui sort de notre quotidien, une proposition de péché grave, c'est là que on risque de craquer. Et on peut voir des gens qui ont un quotidien assez stable dans la pratique de la religion, mais ils sont entrés dans une routine et en même temps ils ne font pas vraiment de péché parce qu'ils ont un rythme de vie assez cadré, peut-être monotone aussi, je ne sais pas comment il faut le qualifier, mais voilà, ils restent dans un cadre. Mais quand il y a un événement extérieur, ça peut être un péché ou ça peut être une grosse épreuve. Si le iman, la foi n'est pas suffisamment formée, s'il n'y a pas les bases, il n'y a pas les connaissances d'Allah, la personne peut perdre des pédales et déraper, se poser des questions, se remettre en question et ne pas savoir quelle position adopter. Quels sont les deux exemples qu'on a cités? Ben, le péché. Et cet exemple-là, on l'avait cité à qui? Il y a des élèves qui étaient présents au programme de la Tanier samedi dernier. Tu étais là, toi? Oui. Ah, donc tu es venu aujourd'hui. Alhamdulillah. Au moins, on a pu en repêcher un, mashallah. Non, c'est une autre classe qu'on avait donné cet exemple à... On a pris en exemple un jeune, un de nos huffaz al-Qur'an, qui, mashallah, avance bien. Je dis que ce jeune arrive en première. Imaginez qu'il a toujours eu un rythme de vie tranquille. Un mama il a casse, comme il dit, tranquille. Et maintenant, il est en première. Le premier jour... Il voit une jeune demoiselle dans sa classe et il a le coup de foudre parce que maintenant il a 17 ans. Et le coup de foudre est réciproque et du coup cette demoiselle lui fait des avances et il se plaise. C'est sa première situation de mise à l'épreuve. Il était dans un cadre extrêmement confortable. Il était dans une zone de confort, comme on a dit, où sa vie était rythmée, il n'y avait rien d'extraordinaire. Ça, c'est un événement extraordinaire, un événement nouveau, qui va chambouler sa vision du monde. Et s'il n'a pas un iman solide, il aura du mal à résister face à ce péché. Ce n'est pas pour rien si le prophète nous a annoncé que parmi les 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, le jour de Qiyamah, hein, qui me le dit? Ma huwa shahid? Ah, il faut parler fort, je suis vieux maintenant. Vrai, mais ce n'est pas ce qu'on recherche. Non, ce n'est pas un jeûne. Tout ce qui commence par un jeûne, arrêté.
Une personne qui aura une avance d'une, du sexe opposé et qui le résistera.
Absolument. Rajulun da'athum ra'atun. Un homme qui reçoit des avances d'une femme de haute lignée et de grande beauté. Ça arrache ça quand même. D'accord? Parce que le madame qui descend, excusez-moi, il n'y a rien de méchant dans ce que je dis, le tantine qui descend du bus Citalis et le tantine qui sort du Nixis, ce n'est pas le même niveau, mais promet à Zot. Ce n'est pas la même chose. D'accord? C'est comme ça. Ça fait partie des faiblesses de l'être humain. Et la dame qui, bon, elle n'est, astaghfirullah, je veux rien dire de mal, mais qui n'est pas d'une grande beauté, et une qui est plus jeune et qui est d'une beauté époustouflante, c'est pas le même niveau d'épreuve. Nous sommes des êtres humains, c'est pareil. Et c'est dans les deux sens, hein. Les ulama disent que quand c'est un jeune homme, un jeune homme, c'est vous qui m'avez, machin, quand un homme, parce que c'est pas que les jeunes hommes, hein, on peut avoir 40 ans, 50 ans, masti, hein. Masti, c'est jusqu'à la mort, d'accord? Et ça peut être une femme aussi qui reçoit les avances d'un homme et qui résiste. C'est la même récompense, d'accord? C'est interchangeable. C'est pas uniquement les hommes qui auront cette récompense parce qu'ils auront résisté aux appels d'une belle femme. Non, c'est dans les deux sens. Ça, c'est commenté des savants. Hein. Je disais donc que le niveau d'épreuve, quand c'est une femme de haute lignée, excusez-moi, c'est pas une femme de la rue. C'est pas la femme qui essaie de qui butine avec un peu tout le monde. Donc on sait tout de suite que c'est pas pareil en termes d'argus, c'est pas la même chose, d'accord? Quand c'est une femme de haute lignée et mashallah d'une grande beauté, le mashallah étant en plus, excusez-moi, d'une grande beauté, le niveau d'épreuve est beaucoup plus élevé. Et là, dire non, je vous assure, il faut en avoir dans le iman, c'est pas dans les tripes. De l'iman. Il faut le iman est fort, solide, consolidé. Il faut que al-iman billah, le premier pilier, la première branche de la foi, amantu billahi, avant même de malaikati wa kutubi, il faut ce amantu billahi, il est solidement ancré dans votre cœur et que vous y croyez. C'est pas juste qu'on y est, donc on avance comme ça, c'est mon identité. Non. C'est que tu sais que tu es sur cette terre. Pour Allah, illa liya'budun. Et Allah est au-dessus de moi, il me voit, m'observe. C'est tout ça qui fait al-iman billah, qui prend sa place dans le cœur de l'être humain. Et l'autre situation qu'on a citée, c'est la situation d'épreuve. Une très mauvaise nouvelle, une difficulté, un problème de santé, un problème financier, un problème familial, quelque chose qui n'était pas prévisible, qui vous arrive comme ça, d'un coup, alors que vous étiez dans votre zone de confort. Mais là aussi, la personne qui n'est pas prête spirituellement, risque de perdre pied et de ne pas pouvoir développer le sabr, la patience qu'il faut face à la difficulté, face à l'épreuve. J'avais dit qu'il fallait pas perdre le fil. C'est quoi le dernier point avant qu'on dérape?
Je prends les deux derniers.
On reprend là où. Comment est-ce que la personne va ressentir la grandeur d'Allah? Si le cœur est vide, c'était la phrase qui nous a interpellé, d'où l'importance de connaître Allah Azza wa Jal, d'étudier ses noms, ses qualités, de connaître notre Rabb pour être fort face aux tentations, pour être fort également dans les situations d'épreuve et pour rester ferme dans la pratique. On continue. Ça c'était malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Et non, alors qu'il vous a créé par phases successives. Et ces phases successives ont été développées dans d'autres versets. Il y en a énormément. Et un des versets qui me revient, c'est dans le 18e juz, la deuxième page où Allah Rabbul Izza explique la création de l'homme à partir d'une goutte qui devient un caillot, qui devient un morceau de chair et qui se développe. ثُمَّ كَسَوْنَا الْعِظَامَ Lahma. Ensuite, à partir, Idam, c'est quoi Idam? Les os. À partir des os, Allah va créer, va faire naître la chair, et de cette façon, l'être humain se constitue. Il y a beaucoup de versets, beaucoup de couplets de versets dans différents chapitres où Allah Rabbul Izza explique la création de l'être humain depuis la phase de l'embryon, subhanallah, jusqu'à ce qu'il devienne un être vivant. Et c'est ce que Nuh alayhi salam rappelle également à son peuple. Donc ça, il n'y a pas besoin de développer plus. Voilà. Et ensuite, Nuh alayhi salam va dire à son peuple, on peut faire un petit passage en plus, « Alam tarau kayfa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa » N'avez-vous pas vu comment Allah a créé sept cieux, tibaqa, superposés? Ça fait partie de nos convictions qu'Allah a créé sept cieux. Et comment on le sait? Qui le prouve? Aucun scientifique ne peut le prouver, et peut-être qu'ils ne pourront jamais le faire non plus, mais la seule chose qu'on a, c'est le wahi. C'est qu'Allah nous l'a dit. Allah a créé sept cieux. Donc, Nuh alayhi salam rappelle à son peuple cette réalité. Et wahidatin fawqa wahidatin, l'un sur l'autre, avec une distance entre les cieux qu'Allah seul le sait. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Et il a fait de la lune une lumière et du soleil une lampe. Ça aussi, on a eu l'occasion de développer dans le passé des versets sur les cieux, la terre, la lune, le soleil. Il n'y a pas nécessité de les répéter. Juste qu'Ibn Kathir dit que Allah Rabbul Izza a créé la lune, entre autres parmi les hikmas, c'est pour que l'homme se repère à travers le temps. Les dates, les mois qui commencent, les mois qui se terminent, et les mois qui s'enchaînent, les années qui s'enchaînent. Et le soleil, bien sûr, c'est là par le soleil qu'il y a la vie. Et c'est par la disparition du soleil que la vie persiste et perdure aussi. On avait eu l'occasion aussi de citer ces versets. Subhanallah, qui me rappelle le verset? قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا et قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ après? سَرْمَدًا et اللَّيْلَ c'était سَرْمَدًا aussi? قُلْ d'accord. Où Allah Rabbul Izza rappelle que que pensez-vous, sens du verset, si Allah avait décrété que la lumière perdure, qui en dehors d'Allah aurait ramené l'obscurité? Et on sait, scientifiquement, c'est prouvé, on parle de réchauffement climatique et tout ça, tout ce qu'on nous balance là-dessus en ce moment, que si les températures n'arrêtent pas de monter, il y aura danger pour les cultures, pour les arbres fruitiers, pour les animaux et ainsi de suite. Et c'est une réalité. Si, imaginez qu'il y avait même une heure de soleil, pas de sommeil, hein, ça aurait été profitable. Une heure de soleil en plus par jour serait des conséquences. Tout est dosé. Tout est sous le contrôle d'Allah Azza wa Jal. Et l'autre couplet de verset, si Allah faisait perdurer l'obscurité. Et vous savez que scientifiquement, c'est prouvé en SVT, biologie, tout ça, que pour que les plantes, les arbres fruitiers, ainsi de suite, ils puissent se développer, pousser, donner des fruits et ainsi de suite, il faut le soleil, il faut la lumière. On appelle ça là, c'est pas la photosynthèse, non? Waouh, subhanallah, ça remonte à 32 ans moi, quand en quatrième. Tout ça c'est nécessaire et tout ça c'est la sunnah d'Allah azza wa jal, la création d'Allah et l'organisation d'Allah azza wa jal. Donc Nuh alayhi salam le rappelle à son peuple et on clôture par une très belle conclusion de As-Sa'di rahimahullah qui normalement doit nous servir pour tous les versets où Allah Rabbul Izzah nous rappelle sa création. Yaqulu Hafiz rahimahullah fafihi tanbihun ala 'idami khalqi hadhihi al-ashya. Quand Allah parle des cieux, de la terre et ainsi de suite, tout ce qu'on a cité, c'est pour que l'homme se rappelle de la grandeur de cette création. Qui peut remplacer une lune? Qui peut créer un rayon de soleil? Quel que soit le scientifique, quels que soient les appareils qu'il peut essayer de construire, de créer, avoir un faisceau lumineux aussi puissant qu'un rayon de soleil durable et qui augmente en chaleur plus on monte, voilà, on comprend que c'est la création d'Allah. Réaliser la grandeur de la création d'Allah, première hikmah. Deuxièmement, la perfection de la création prouve la perfection du du Créateur. Et ça, ça vient de moi, ça prouve, hein, le verbe est pas très adapté, est un signe, est un élément qui nous prouve, qui nous montre la perfection du Créateur, parce que c'est pas à l'échelle des créatures uniquement qu'on peut réaliser la grandeur d'Allah. Ça dépasse tout ça. Ça dépasse tout ce qu'on peut déduire et comprendre. Mais également, et ça c'est magnifique, et ça on ne retrouve pas ailleurs, et c'est un rappel également, « لِكَثْرَةِ الْمَنَافِعِ فِي شَمْسِ وَالْقَمَرِ أَدَّالَّ عَلَى رَحْمَتِهِ وَسِعَةِ إِحْسَانِهِ فَالْعَظِيمُ الرَّحِيمُ يَسْتَحِقُ أَنْ يُعَظَّمُ إِلَى آخِرِ الْكَلَامِ. » Et le fait qu'Allah ait organisé ce monde de cette façon, avec une terre où on peut circuler, une mer qui peut accueillir les navires, et ainsi de suite, soleil, lune, alternance entre le jour et la nuit, climat, la pluie, et ainsi de suite, ça montre la clémence d'Allah envers sa création. Allah permet à l'homme de vivre dans un contexte où la vie est accessible, facile, où il y a un certain confort. Tout ça, toutes ces créatures, ben, c'est pour l'être humain. C'est pour que l'être humain puisse s'organiser et vivre correctement. Qu'Allah Rabbul Izzah, dans sa clémence, ouvre nos poitrines et nous permet d'intégrer ses paroles et d'en tirer les leçons, et qu'Allah augmente notre iman et nous permet de demander régulièrement le istighfar. Combien de fois par jour minimum? Entre 70 et 100 fois par jour. Ne pas se coucher tant qu'on n'a pas demandé au moins 100 fois. 70 voire 100 fois, pardon, à Allah Azza wa Jal, et aussi ne pas se coucher sans avoir lu Tabarak alladhi biyadihi al-mulk. Et quand on se couche, dormir en état de wudu, en état d'ablution, ne pas oublier de lire ces Mu'awwidhat, les ad'iya, Ayatul Kursi, Aman al-Rasulu, Qul wallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, et de souffler sur soi et de souffler sur les personnes qui nous sont chères, nos enfants et la famille. Et quand on se couche, c'est dormir avec le niya de se réveiller pour Fajr. On ne peut pas mettre la barre un petit peu plus haut. Hein, Hudhayfa, où est-ce que tu places la barre, toi? Qiyamul Layl, Inch'Allah, qu'Allah nous accepte. Jazakumullah khair, car celui qui fait l'intention d'une bonne action, sincèrement, Allah Rabbul Izza demande aux anges d'inscrire tout de suite, immédiatement, la bonne action dans son livret de compte. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.